Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est des personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour Estherelle.
Bonjour Fanny.
Je suis ravie de te recevoir dans ce format personnalité de Sur le grill d'Écotable. Ce podcast va être l'occasion de te présenter et mieux te connaître pour nos auditrices et auditeurs, mais je vais essayer d'abord de te présenter. Tu es critique gastronomique, notamment pour Télérama Sortir, journaliste, écrivaine et depuis peu doctorante. Après avoir étudié les lettres modernes à la faculté d'Aix-Marseille, tu es devenue ingénieure en sciences de l'information. Tu as écrit une trentaine de livres, trop de livres si l'on en croit ta biographie Instagram, dont Chef Feu, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France et mon encyclopédie de la cuisine végétarienne. Toujours en quête d'apprentissage, tu prépares un doctorat en sciences de l'information et de la communication sur le sujet des représentations, de la mise en invisibilité et de l'exclusion médiatique des cuisinières professionnelles au XXe siècle. En parallèle, tu interviens à l'Université de Bourgogne. En plus de cela, tu es administratrice et coprésidente de l'association Ernest, dont l'objectif est, entre autres, de distribuer des paniers bio locaux aux personnes les plus vulnérables. Pour commencer, je voudrais que les auditeurs et auditrices apprennent à mieux te connaître via ton portrait de cuisine. Je vais te demander de répondre simplement à des questions de façon spontanée. T'es prête ?
Allez, vas-y.
Si tu étais un plat ?
Des lasagnes végétariennes.
Si tu étais un ingrédient ?
Du sel.
Exhausteur de goût.
Indispensable à la vie.
Si tu étais un ustensile de cuisine.
Un couteau, très bien affûté.
Si tu étais une boisson.
Du café. Mon péché.
Si tu étais un ou une chef.
Difficile d'en choisir qu'une en fait. La mère Brasier.
Ah oui, pourquoi ?
Bah, déjà, plutôt Eugénie Brasier, puisque avant d'être connue sous ce nom-là, elle avait un nom et un prénom. Parce qu'elle incarne, en général, c'est la chef historique que les cuisiniers connaissent, en fait. Mais c'est un peu celle... J'ai regretté, finalement, de n'avoir rencontré son nom que bien trop tard. Je l'aurais connue quand j'avais 25 ans, j'aurais peut-être fait autre chose de ma vie.
Ah oui, t'aurais fait quoi ?
Ah, je sais pas, j'aurais peut-être... Si j'avais eu connaissance qu'il y avait plus de femmes en cuisine, je me serais peut-être autorisée à vouloir y aller.
Ah, donc c'est peut-être une vocation manquée d'être restauratrice pour toi ?
Non, c'est pas manqué parce que j'ai assez fréquenté les cuisines pour savoir que c'est un métier extrêmement difficile et je suis pas sûre que j'aurais choisi de faire ça. Mais en tout cas, j'aurais peut-être fait d'autres choix à d'autres âges. Mmh.
Ton restaurant préféré ?
Je crois que c'est aller manger chez mon père, c'est pas un restaurant. Mais moi, je vais au restaurant comme on va au travail, donc c'est un peu... J'ai un rapport complexe au restaurant.
Donc à choisir entre restaurant et cuisine maison, tu choisis cuisine maison ?
Ah oui, cuisine maison.
Pour des raisons de santé, de plaisir même ?
Non, en fait, c'est parce que quand je vais dans un restaurant, mon cerveau se met dans un mode bien particulier, ouais. Que j'ai du mal à contrôler, une sorte d'hypervigilance à regarder les détails, à analyser, à comprendre. Parfois, ça peut gâcher même un petit peu le plaisir, puisqu'on pense déjà à ce qu'on va écrire. Donc, ça serait forcément un restaurant en pays étranger ou un restaurant de plage au bord de la mer où on sert des frites. Quelque chose de vraiment dont je suis sûre que je ne vais pouvoir tirer que le plaisir de l'expérience, pas déjà réfléchir à comment je vais le raconter.
Ton dernier restaurant coup de cœur ?
Bah, j'ai eu de la chance, il y a quelques jours, j'étais au Coquillage d'Hugo Rollinger, qui reste un de mes endroits préférés au monde, et que ce soit il y a quelques années avec Olivier Rollinger et maintenant avec Hugo. Et je suis forcée de dire que ça reste un de mes restaurants préférés malgré tout.
Tu as un peu répondu, mais est-ce que tu en as marre aujourd'hui de manger au restaurant ?
Ça serait indécent de dire qu'on en a marre de manger dans un monde où il y a tant de gens qui ne mangent pas à leur faim. J'ai parfaitement conscience d'avoir une activité extrêmement bourgeoise et privilégiée. Donc je ne peux pas dire que j'en ai marre, ça serait vraiment indécent. En revanche, ça reste un métier. Il y a des bons et des moins bons côtés. Disons qu'il y a, c'est un métier à fantasme, très fort, le métier ouais. de critique. Et en même temps, ça reste une profession, avec des règles, avec des façons de procéder, des méthodes. Donc c'est plutôt un métier plus agréable que la moyenne, évidemment, mais ça reste un métier.
Quel est ton premier souvenir lié à l'alimentation ?
En fait, je suis chez ma psy, c'est ça ?
Complètement. Ou si tu as une Madeleine de Proust ?
Ben, tu vois, c'est quand même des choses extrêmement personnelles. Tu vois, moi, c'est des questions que j'ai posées au chef plutôt à la fin. Très souvent, les gens vont spontanément raconter leur mère, leur grand-mère, leur famille. On n'a pas tous la même relation apaisée à l'alimentation et à la famille. Tu vois, on n'a pas forcément ce même rapport à l'intime par l'alimentation. J'ai quand même, tu vois, plutôt qu'un souvenir de dégustation, ça va être un souvenir de fabrication. Ma mère, chaque été, donc moi je suis du Sud, je suis née à Istres, à côté de Marseille. Ma mère achetait des tomates au mois de septembre et elle faisait le coulis de tomates en grande quantité. Alors, il faut savoir que ma mère cuisine très peu. Mais ça, elle le faisait au mois de septembre. C'est le moment où les tomates sont les plus mûres et les moins chères. Donc, on avait les cajots de tomates romains pour pas très cher. Et elle les faisait bouillir, puis elle les passait au moulin à purée, donc le moulin mécanique. Et je protestais. Il fallait qu'elle m'attende quand je revenais de l'école. Je ne savais pas encore lire, hein, donc j'étais vraiment maternelle. Fallait que je revienne, quand je revenais à 11h30, il fallait qu'elle m'ait attendue, parce que je montais sur un tabouret pour pouvoir le faire. Et ce dont je me souviens, c'est d'être en train de faire le geste de la passata, ce geste-là qui est quand même assez long et puis ouais. assez musculaire, et de le faire avec amusement et avec plaisir, et puis surtout d'avoir dit « tu m'attends bien hein. ». Après elle le congelait. Et j'avais complètement oublié ça, et j'en ai fait cet été avec mon fils aîné, qui est beaucoup plus grand que moi à l'époque, il a 18 ans. Et d'un coup, ça m'est revenu. Mais c'est vrai que je l'avais oublié.
Mais t'as investi dans un extracteur de jus, non si je...
Alors non, ça, j'ai même un... J'ai une passion pour les brocantes où j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'objets de cuisine. J'ai acheté un moulin à passata qui est vertical avec un tamis et un filtre. Ah. C'est encore plus chouette que le moulin à légumes. J'ai fait des essais comparatifs, okay. Mais j'ai aussi un extracteur de jus parce que j'ai écrit il y a quelques années un livre sur l'extracteur de jus. Ça marche bien aussi.
Ça marche bien pour la tomate.
Ça marche très très bien pour la tomate. Mais en fait, il était en train de tourner l'extracteur de l'autre côté avec des pommes et des poires pour faire du cidre. Bon, c'est une autre histoire.
Tu fais du cidre maison.
Oui.
On apprend ça. Que représente l'alimentation pour toi ?
C'est le centre de ma vie. C'est ma seule obsession. En fait, c'est une fois qu'on a mis ces lunettes-là, on ne voit que ça. C'est une manière de voir le monde, l'alimentation. J'aurais pu être sexologue aussi, je pense, puisque c'est les deux choses qui vont réunir tout le monde en général, qui parlent de l'humanité, c'est l'alimentation et l'amour et le sexe, et les deux sont complètement parallèles. Ça raconte des choses de qui nous sommes, d'où nous venons, d'où nous allons. Donc c'est pas tellement la dégustation qui va me passionner, enfin ça fait partie de l'ensemble du cycle, c'est d'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. C'est un support à d'infinies questions.
Mais tu n'as pas toujours travaillé dans l'alimentation. Qu'est-ce qui t'a convaincue d'y travailler ?
En fait, j'ai toujours voulu y travailler. Je me revois avoir discuté avec mes parents en disant « mais ça serait peut-être bien que j'aille faire l'école hôtelière. » Ah non ! Alors ma mère dit que cette discussion n'a jamais eu lieu, mais moi j'en ai bien souvenir. Mais je crois que c'était tellement inimaginable dans les années 80, allez, fin des années 80, début des années 90, qu'une jeune fille de bonne famille... qui était plutôt bonne à l'école, disent je veux cuisiner. C'était pas un modèle très fréquent. Moi, j'ai vu après l'éclosion des reconversions, je l'ai beaucoup suivi pour le L, notamment pour lequel j'ai bossé pendant pas mal d'années. Je l'ai vu, cette explosion des reconversions. Mais de ma génération, ça ne se faisait pas du tout. Soit on est dans une famille de restaurateurs et parfois il y a eu des femmes diplômées qui après sont revenues en cuisine, mais bon, Anne-Sophie Pic, elle a fait une école de commerce avant de revenir travailler à la maison Pic, et c'était pas si elle était prévue au départ. Donc moi, j'avais pas de raison d'y aller finalement. Donc, mais ça m'a jamais lâchée parce que Par contre, la fonction nourricière était centrale chez moi. Mon père cuisinait, ma mère cuisinait pas beaucoup. Et c'était, y avait de la place dans la cuisine. Je pouvais expérimenter. J'avais un public tout trouvé. J'avais un frère, une sœur, une mère qui est très gourmande. Donc, adorait que je fasse des gâteaux, des cookies, des tourtes aux pommes, des tourtes aux pommes de terre, des tartes aux poireaux. Et c'est vrai que moi, j'allais acheter des bouquins de cuisine avec mon argent de poche et je faisais la cuisine pour mes frères et sœurs dès que j'ai eu 12, 13 ans. En fait. Okay. Donc, et c'était, pour moi, c'était naturel. Et la cuisine était en face de ma chambre. Ça a dû jouer. Mais c'est plus... j'ai pas pensé ça au départ comme une carrière. C'est plus une action, en fait, avant tout, pour moi. C'est le geste qui m'importait. C'était de faire, de donner, de transmettre. C'est magique, quand même. Vous prenez trois trucs et vous en faites autre chose. Il y a un petit côté sorcière, déjà, qui était... Mais pour moi, c'était vraiment de la magie. Il y a vraiment une dimension très ludique, très enchantée. Dans le plaisir de transformer.
Mais c'est quoi alors le déclic qui te fait passer alors raconte-nous d'abord le premier travail que tu fais. Je deviens journaliste gastronomique et alors, je deviens l'une des journalistes les plus connues.
Mon premier métier, déjà j'ai fait des études de lettres parce que j'aimais... je dis toujours que c'est la seule chose que je sais faire dans ma vie, c'est écrire. C'est pas vrai, je sais faire aussi les confitures. Mais c'est plus que les choses se sont présentées à moi qu'il y a eu une démarche vraiment archi-volontaire. Ça a été toujours suivre les gens qui m'ont entrouvert les portes, avoir su voir quand il y avait une opportunité. Je suis quelqu'un d'assez structuré, organisé. Si j'ai fait un diplôme d'ingénieur, alors ok, c'est des techniques documentaires, mais c'est la passion du tableau Excel, de ranger, ordonner. Bon, pour parler d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est comme Georges Perec. Quand on a une imagination foisonnante, on aime bien aussi ranger, classer. Et puis l'idée de construire, de bâtir, de transformer, tout ce que je vous ai dit sur la magie de la cuisine, ça va aussi avec une grande structure. Donc c'était une façon d'équilibrer les deux. Ce côté assez mettre du rationnel dans les choses qui ne le sont pas forcément. Et puis j'ai travaillé dans plein de boîtes différentes, dans des agences de com, dans... Enfin, il y a eu une succession d'entreprises. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un des derniers postes que j'ai occupé, je travaillais dans la direction de la communication chez Suez. Donc, à l'époque, qui faisait de l'eau, de l'énergie et de la propreté. Moi, j'adore le secteur des utilities. C'est un secteur absolument fascinant, la production de tout ce qui nous réunit au quotidien. Et l'alimentation en fait partie. Il y a un côté serviciel et qui est vraiment très, très fort en termes de culture d'entreprise. Et en parallèle, j'avais eu, dans un de mes boulots précédents, j'avais rencontré des gens qui travaillaient dans le secteur des livres. J'avais écrit un projet de livre de cuisine, parce que ça m'animait toujours. J'écrivais tout le temps, je créais tout le temps des petites recettes. Et c'était le moment où le livre de cuisine n'était pas du tout à la mode. Là, on était au tout début des années 2000. On était après à la fin de la vague des livres de chef. Et il n'y avait pas de livre de cuisine du quotidien un peu tendance. Et... J'ai envoyé mon livre par la poste, j'ai attendu un peu, il y a eu une année qui s'est passée, j'ai recroisé quelqu'un et paf, on me propose d'écrire mon livre de cuisine et aux éditions Librio. Donc c'est un livre de trois fois rien. Ça
coûtait... Alors qu'à l'époque, personne ne te connaissait.
Mais du tout. Et en fait, j'ai l'impression d'être un dinosaure, ça fait 20 ans. Il y avait quelques livres de cuisine, quelques fiches, mais c'était pas du tout tendance en fait. Moi, de toute ma bande, de toute ma génération de cagneux, j'étais la seule qui cuisinait, qui était fière de cuisiner. J'étais une sorte d'ovni quoi. Ça se faisait pas. Nous, on est de la génération, tout le monde était fier de manger des bolinos.
Ouais.
Il y avait aucune fierté à savoir cuisiner. Moi, c'était mais pourquoi tu fais ta pâte à tarte au lieu d'acheter un rouleau? Je disais, j'ai 10 doigts, c'est magique. J'étais un truc exotique hein, à l'époque. Mes copains avaient vraiment du mal à comprendre. Et puis, moi, j'ai compris que ça me permettait d'avoir 20 personnes à table et que tout le monde soit heureux et discute. Et c'était le pouvoir de l'alimentation quand même hein, que j'avais expérimenté. Bon, je me suis perdue dans ma pensée comme d'habitude. Je vais revenir. Donc, la question, c'était comment je suis arrivée dans la bouffe. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, la bouffe, mais bon, là c'était vraiment ça. Donc j'ai envoyé ce livre de cuisine, je l'ai fait, il est sorti, donc j'avais un boulot très sérieux le jour. Donc je m'occupais des 60 sites du groupe Suez à l'époque, français, anglais, néerlandais, assemblée générale des actionnaires, répondre aux... Enfin bon, la vie de la communication d'une société cotée. Et la nuit, j'ai créé des recettes de cuisine. Voilà. Et c'est au moment, à ce moment-là que sont arrivés les blogs de cuisine. Comme je travaillais dans le web, j'avais, je testais tout, genre même les Skyblogs, j'ai dû tester ça. Attention, c'est un épisode vintage. Et donc j'avais ouvert un blog pour voir comment ça fonctionnait, ce truc. Et je l'ai fait sur la seule chose qui m'intéressait, sur la cuisine. Je n'allais pas parler des nouveautés tech ou quoi. Mais je n'avais pas prévu que ça marche, en fait. Et j'ai commencé, il y avait des gens qui me répondaient. C'était à une époque où il y avait une dizaine de blogs de cuisine en France.
Et tu mettais des recettes, tu mettais quoi ?
Des recettes, des devinettes. Je me souviens, j'avais posté de l'ail noir, déjà à l'époque.
Ah ouais, déjà ?
Ouais, déjà. Bon, il est resté en ligne, hein, parce que c'est un peu une survivance d'un autre temps, mais ça me sert un peu de carnet de notes. Et parfois, je cherche une recette et pouf, je tombe sur mon propre blog d'il y a 15 ans. C'est comme si on s'était écrit une lettre il y a très longtemps en disant... Mais qu'est-ce que je racontais là ? Donc c'est assez étonnant. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens. En fait, et là, je me suis rendu compte que j'étais pas seule à aimer la cuisine. On a été toute une génération. Il y avait Ricky Abadre, il y avait Pascal Wicks, il y avait Clotilde Dussoulier qui à l'époque avait un blog de cuisine avant d'être coach.
Mais donc tout de suite ton blog fonctionne, tu as tout de suite des vues, enfin ça t'apporte.
Mais on vivait pas sur les stats en fait. Okay. Moi, je les voyais déjà pour le boulot, donc c'était plus ma récréation. C'était vraiment, si le blog de Lily Barbery au départ s'appelait Ma Récréation alors qu'elle était journaliste, c'était ça. On avait des boulots où toute la journée on gérait des contenus. Bon, moi c'était pas du tout sur l'alimentation, mais ça représentait un vrai divertissement. C'était la vraie dimension ludique. Et puis moi ce qui m'a vraiment étonnée, c'est le nombre de personnes que j'ai rencontrées grâce à ce blog, dont plusieurs personnes qui sont encore des amis très chers à ce jour, qui n'ont plus forcément de blog, que je n'aurais jamais rencontré sinon en fait. On aurait pu dire que c'était comme les forums de l'époque, mais il y avait une autre dimension, c'était beaucoup plus incarné, un blog. On se laissait des messages dans les commentaires, après on allait se faire des visites chez G2Tout, on s'organisait des... D'un coup, il y a une communauté qui s'est créée. C'est vraiment ça qui a fait la différence. On avait un public. Alors moi, j'étais d'abord autrice de livres de cuisine avant d'être blogueuse. Ça s'est passé dans cet ordre-là, en fait. Et puis, il y a...
Et t'avais quel âge ?
C'était en 2005, donc j'avais 30 ans.
Ok.
Voilà. C'est à peu près, disons que ça a vraiment explosé à la naissance de mon fils aîné, hein, globalement. C'était un peu avant mes 30 ans, et puis ça a vraiment explosé là.
Qu'est-ce qui te fait décider de quitter Suez pour faire ça ?
Alors, c'est qu'il y a eu mon fils qui est né, mais il y a eu aussi deux petits coups de chance. Il y avait à cette époque Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, qui occupait ses bureaux à l'endroit où actuellement il y a Christophe Michalak rue du Faubourg Poissonnière. Ils avaient réalisé que pour que les gens consomment plus de fruits et légumes frais, il fallait les accompagner. Et ils avaient créé quelque chose de merveilleux qui s'appelait la cuisine fraîche attitude. On avait un atelier de cuisine qui accueillait des chefs, mais qui après accueillait des blogueurs et toutes les personnes passionnées de cuisine pour apprendre à cuisiner des carottes, des salsifis, des radis. Et c'était un outil génial. Et l'offre d'emploi pour le poste de responsable web est arrivée. Mon fils, il avait 2 mois. Donc, je suis allée les voir. Et ils m'ont dit, mon boss après m'a dit, mais c'était incroyable. Non seulement tu allais gérer les sites de la boîte, mais en plus tu pouvais descendre avec ton tablier et donner un cours. Il me dit, j'ai trop vu la bonne affaire sur pattes. Moi, je n'avais même pas compris. Et en fait, ça me permettait de rejoindre le secteur de mes rêves. Mais moi, j'étais responsable web là-bas, en fait.
Okay.
Et ça a été super parce que j'ai rencontré des chefs, j'ai rencontré des journalistes culinaires. Et parfois, j'ai réalisé qu'il y en avait qui ne savaient pas couper une carotte.
Les journalistes ?
Ouais, ça m'a désacralisé le métier, en fait. Et on me l'avait dit, plusieurs m'avaient dit, mais notre responsable de com avait dit, tu en sais plus que certaines. J'ai dit, mais non, ce n'est pas mon métier, etc. Puis parfois, je suis descendue en cours et c'est moi qui expliquais des choses aux participantes. Alors, ils ont dit quand même, c'est un peu bizarre. À ce moment-là, il y a le journal Elle qui fait un numéro spécial sur les blogueuses de cuisine. Ça doit être 2007. Et ils mettent en couverture deux personnes que je connaissais bien. Donc Pascal Wicks, de C'est moi qui l'ai fait, et Clotilde Dussoulier, qui à l'époque avait le blog qui s'appelait Chocolate and Zucchini. Et à côté, il y avait un tout petit bouclette qui disait nos blogs de cuisine préférés. Il doit être quelque part dans ma pile d'archives. Et j'étais dedans. Il y avait quelqu'un qui avait regardé mon blog et qui avait dit c'est trop bien, c'est super et tout. Moi, en plus, dans ma famille, on lisait plutôt Madame Figaro que le L. Donc, j'étais très étonnée. Je suis allée voir le responsable presse, je lui dis, c'est qui Catherine Roig ? Catherine Roig. Ah bah, bah tiens, voilà son mail. Alors, bonjour madame, merci beaucoup. Et elle me dit tout de suite, j'aime beaucoup ce que vous faites. Si vous pensez un jour à un article, surtout pensez-le à moi en premier. Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est pas mon métier, c'est quoi cette dame ? Et, oui, oui, merci beaucoup. Et puis, un peu de temps passe, il m'arrive des choses pas très drôles que j'ai racontées dans un autre podcast. Une nuit, je lui écris un mail en lui disant « Ah ben tiens, j'ai pensé à un sujet. Enfin, du fin fond de nulle part, j'ai envie d'écrire un truc sur mon blog pour me changer les idées. » Et c'était un truc sur les sucres. Et puis je dis « Ah non, mais il y a cette dame qui m'avait dit que je pouvais écrire pour elle. Tiens, je vais lui écrire. » Et je lui fais un mail. Et le lendemain matin, c'était « Tiens, très bien, 3000 signes à rendre la semaine prochaine. » Je dis « Mais ouais. Comment on fait, en fait ?» Elle me dit « Bah, c'est pas grave, vous essayez. Si ça va pas, je vous corrigerai. Et puis si ça va, bah, on continuera. » Et bah, ça a continué pendant 10 ans. Donc j'avais rejoint comme ça le secteur qui m'intéressait. Et j'ai commencé à faire des piges à côté, tout en gardant le blog, tout en écrivant des bouquins. Et puis après, ça s'est enchaîné en ordre un peu dispersé, puisque j'ai jamais su faire une seule chose à la fois.
Donc c'est quand même l'histoire d'une renaissance et d'une résilience, parce que tu nous dis que c'était un moment où toi, personnellement, ça n'allait pas.
Oui, ça a été un moment compliqué dans ma vie. Je l'ai raconté dans le podcast Une fausse couche, comme une autre, en fait. Okay. Voilà, j'avais vécu ça à ce moment-là. Et c'était quand même étonnant, parce que j'ai pris un virage à ce moment-là que j'aurais peut-être pas pris. Il y a un moment où, quand on a l'impression qu'on a tout perdu, le tout pour le tout, on essaye quelque chose qu'on n'aurait pas osé sinon, en fait. Et c'est vrai que je... Alors après coup, j'ai pas tapé à la porte, on me l'avait déjà entrouverte avant, quand même. C'est Catherine qui était venue à moi, mais après, le fait qu'elle m'accueille, alors que j'avais pas du tout un jour imaginé écrire pour le L, c'était pas mon monde, c'était pas mon univers. Catherine Rogue, elle est fille de restaurateur. Et elle-même, elle faisait des études de sociologie au départ, quand elle a atterri au L, et puis elle y est restée. C'est une vraie passionnée de cuisine avant tout.
Et tu t'es mis à écrire exclusivement pour elle ou pour d'autres?
Essentiellement, je travaillais un peu pour Régal et puis il y a des collaborations qui vont, qui viennent. C'est assez variable quand même. Puis il faut gagner sa vie, parfois on a des pseudos.
Aujourd'hui, du coup, comment tu te présenterais? Parce que je t'ai présentée comme écrivaine, journaliste, critique gastronomique. Comment tu te présentes, toi?
Bon, la signature de mon mail depuis des années, c'est mange, écrit. Parle ou mange, bois, parle. Il y a eu quelques variations sur les verbes. Ça serait, c'est pas mange, prie, aime, mais c'est. En général, je dis que je mange et que j'écris. Mmh. Voilà. Mais je parle beaucoup trop aussi.
Et depuis peu, tu es devenue doctorante. T'es arrivée à un stade quand même poussé dans ta carrière où t'as écrit pour à peu près tous les journaux en matière alimentaire, non ?
Non,
tu dirais
non,
pas ça ?
Non, j'ai pas écrit pour tout le monde. Okay. Non, il y a quand même un... Non, il y a une famille...
Mais t'as écrit 30 livres, quoi !
Oui, mais alors, j'ai écrit des livres pour certaines personnes aussi, il y a écrit des livres en mon nom propre, et puis il y a eu une époque où on écrivait des livres avec 30 recettes. Un de mes best-sellers, c'est 30 recettes de cupcakes, et j'en ai pas honte, parce qu'elles sont très bonnes, sans additifs, sans colorants. On discutait des sujets avec les éditeurs... Instagram a un peu tué ces business-là finalement, mais longtemps on a fait des petits bouquins vite fait, bien fait, avec des recettes qui marchent, hein. Moi j'en ai vraiment pas honte de tout ce que j'ai fait chez Solar. Ce qui me fait toujours plaisir, c'est de voir que je les croise pas trop dans les brocantes ou les foires à tout, en me disant que les gens les ont gardés chez eux, en fait. Mais c'est un peu prétentieux. Mais
du coup, t'écris pour le grand public et là, tu vas écrire une thèse qui... Alors, pour moi, avoir écrit une thèse, je sais que à quel point peu de personnes lisent les thèses et à quel point c'est un travail monumental, c'est des années de travail. Qu'est-ce qui t'a motivée à faire ça?
Alors déjà, elle n'est pas écrite. Hein. Ouais. Voilà. Alors, déjà dans ma présentation au départ, il y avait quelque chose sur lequel je voulais revenir. Tu as dit que j'avais écrit un ouvrage qui s'appelait « Chef ». Je ne l'ai pas écrit toute seule. Et c'est une femme qui a quand même eu aussi, comme Catherine, une énorme importance dans ma vie. C'est Vérane Frediani. Donc ce livre a été co-écrit avec la réalisatrice Vérane Frediani, qui a réalisé le documentaire « À la recherche des femmes chefs ». Et que j'ai rencontré à un événement consacré aux femmes, et avec qui m'a poussée là où il fallait que j'aille. Finalement, toute seule, je ne l'aurais pas fait. Quand on est pigiste, on a tendance à être vraiment très solitaire dans son travail. Moi, je marche, je me déplace, je discute beaucoup avec les gens, mais j'écris et je produis toute seule. Je n'avais pas réalisé combien ça me manquait parfois. C'est beaucoup plus riche de pouvoir échanger. On va plus loin, évidemment. Et cette relation sororale, c'est plus compliqué de l'avoir aussi. En tant que pigiste, on est toujours en concurrence les uns les autres. C'est compliqué de monter des projets à plusieurs, même s'il y a des collectifs de journalistes pigistes qui existent. C'est vraiment quelque chose de pas naturel, j'ai envie de dire, chez moi. Et Véran, avec toute son énergie, elle m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai vu, en évoluant dans le secteur, depuis très longtemps, en évoluant dans le secteur de la gastronomie, avoir repéré des mécanismes de domination patriarcale très affirmés, j'avais l'impression d'être les seules à les voir. Parce que c'est pas écrit, c'est pas affiché, évidemment. Les grands chefs sont tous des hommes sur la photo, parce que, depuis toujours, les grands chefs sont des hommes. On va toujours penser que c'est une évidence. Et puis, il faut bien voir qu'en France, la gastronomie n'est pas considérée comme un domaine culturel. On considère que c'est un domaine moins questionnable que d'autres, finalement. C'est comme ça et pas autrement. En France, on a peu de food studies à l'université, paradoxalement. Il faut du temps pour se rendre compte de ce qui manque sur la photo, je trouve. Moi, longtemps, je me suis concentrée sur ce que je voyais avant de comprendre que souvent, ce qui est intéressant, c'est ce qui n'est pas là, c'est ce qui manque, c'est ce qui n'est pas dit. Et
Comment tu t'es rendu compte de ça ?
20 ans d'analyse. Il faut pouvoir confronter ses opinions avec quelqu'un d'autre qui dit « tu as raison, tu ne rêves pas ». C'est pas, c'est comme quand on commence à entendre une petite musique. Là encore, c'est la communauté qui fait la différence. On va se rendre compte qu'on est plus nombreux que ce qu'on pense à penser quelque chose et qu'il faut qu'on arrive à le dire et à le raconter pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc Véran, elle a eu vraiment... c'est quelqu'un de très important pour moi parce qu'en travaillant avec elle, j'ai ouvert une boîte de Pandore. Je n'avais pas mesuré combien le sujet des femmes dans l'histoire de la gastronomie n'a pas été exploré. Il faut savoir qu'il n'y a pas de thèse sur les mères lyonnaises, de thèse d'histoire de troisième cycle sur les mères lyonnaises. Ça n'existe pas. Je crois que j'ai tout dit. Parce que quand vous dites les femmes en cuisine, la première phrase, c'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure sur la réponse. Quelle femme, quel chef tu aurais voulu être ? Ben, j'ai quand même hésité parce que la réponse me semblait bateau. Mais la mère Brasier, sans elle, rien n'était possible dans l'histoire. Mais il y en a certainement bien d'autres avant à découvrir, à citer, à faire exister. C'est un symbole de la lutte contre l'invisibilisation des femmes. Mais ça a eu lieu dans les femmes dans les métiers de bouche. On peut aussi faire le parallèle avec les critiques gastronomiques. Il n'y en a pas eu tant que ça au féminin, puisque les femmes n'étaient pas admises dans les restaurants. Et quand on est une femme et qu'on fait travailler sa bouche dans un restaurant, ce n'est pas forcément pour une problématique liée à l'alimentation au XIXe siècle.
Je vois.
Voilà, c'est dit élégamment, j'ai fait des progrès, mais je dis toujours que quand je gagne, j'ai un métier de bouche, et pour une femme respectable, quelque part c'est un peu gênant.
Ok.
Parce que ça met toujours en avant le corps, le rapport au corps. Quand j'étais plus jeune et beaucoup plus mince, il y avait toujours quelqu'un qui me demandait « Pourquoi vous... comment vous faites pour rester mince avec votre métier ?» Là où j'ai su que j'avais grossi, c'est que plus personne m'a posé la question.
Ouais, il y a toujours un rapport au physique encore hyper fort.
Ah ben, il est très, 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 très fort. Mmh. Et puis, chez les femmes, il est très limitant dans, dans nos professions. Donc, moi, c'est pour ça que c'est un sujet que j'aime bien aborder, parce qu'il fait partie de la difficulté du sujet et de l'invisibilisation.
Mais donc, c'est Véran qui t'a aidé à te sensibiliser, à prendre conscience de ces choses-là. Mais de là à en faire une thèse ?
Non, en fait, elle m'a permis de me rendre compte que j'étais pas seule à penser ça, à plus me croire ce que je pensais être une opinion, à la nourrir avec des faits, à comparer nos expériences, puisqu'elle travaille beaucoup à l'international, Véran, et à comparer des points de vue, et à se dire, mais surtout, pourquoi ce qu'on observe se reproduit ? Parce que c'est une chose d'écrire en 2019 un guide avec des femmes chefs, et de se rendre compte que le même livre a existé dans les années 90, et qu'il a existé dans les années 70, et que donc il y a une répétition perpétuelle du « les femmes chefs arrivent ».
Ah ouais, et toi, je ne savais pas ça.
Bah, en fait, c'est ça qui est difficile dans les phénomènes médiatiques, c'est qu'ils ont une durée mémorielle relativement courte, en fait. on peut se rendre compte qu'en les mettant en perspective. Et c'est condamner les femmes chefs à être des éternelles pionnières. Et quand on voit, par exemple, des biographies de chefs qui se présentent, très souvent, c'est la phrase « l'une des premières chefs étoilées ». Et elles le disent en toute sincérité, dans les années 90, il y a eu des dizaines et des dizaines de femmes étoilées avant elles. Mais déjà, le Michelin, à l'époque, n'avait pas la même importance du tout médiatique. Donc ça explique la chose. Et puis, elles n'ont pas eu connaissance de ces femmes-là, puisque leur mémoire ne s'est pas transmise du tout. Parce que la figure de... Disons que la difficulté et l'envie de faire la thèse, ça vient de là, c'est qu'on est sur des mécanismes médiatiques et patrimoniaux, en fait. Comment on transmet la cuisine? Comment on transmet la figure médiatique du chef cuisinier? On pense l'avoir toujours connue, elle est relativement récente. Et c'est une chercheuse américaine qui le dit en anthropologie, elle est directement rattachée aux racines de la virilité. Et ça peut s'explorer.
Ok. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire un thème de recherche?
Le temps médiatique est un temps assez court, comme je le disais. Le temps de la recherche, c'est pas du tout la même démarche. C'est un temps plus long, plus prospectif. Puis ça me permettait de découvrir une autre façon d'aborder les choses. Je voulais pas l'aborder sous l'angle journalistique. Je voulais pas passer un an à écrire un livre qui, au bout de 6 mois, allait prendre la poussière. D'accord. L'idée de démarrer des travaux de recherche, c'est d'allumer des feux. C'est que des choses que j'ai apprises et que j'ai découvertes, on a besoin de gens qui font des thèses d'histoire sur la cuisine. On a besoin de personnes qui s'intéressent à la vie des femmes chefs en sociologie, en anthropologie. On a besoin de recul sur nos pratiques médiatiques, sur la stéréotypisation notamment, sur comment on continue à transmettre des clichés, comment on décrit, on commence toujours par décrire les femmes chefs. Les commentaires sur les physiques des femmes chefs, regardez à chaque fois qu'il y a Top Chef, regardez les réactions sur Twitter, c'est extrêmement intuitif, instructif sur ce qu'on peut en retirer en termes d'image. Et c'est des mécanismes fascinants à observer de médiatisation et de transmission. Donc, c'est que ça permettait à la fois d'utiliser ce que j'ai appris en tant que journaliste, puisque moi-même, j'en utilise, j'en communique, forcément, je ne peux pas faire abstraction de ça, mais ça permet d'avoir un recul, une analyse qui n'est pas dans la même temporalité et qui, j'espère, moi je suis ravie quand il y a des chercheurs ou des étudiants de 20, 25 ans qui viennent me voir pour me poser des questions là-dessus. J'espère qu'ils ne vont pas voir le sujet de la même façon.
Est-ce que déjà tu en tires des enseignements?
Alors c'est un peu tôt, mais oui, on voit apparaître des figures. Par exemple, la figure de l'éternelle pionnière, elle n'avait pas ce nom-là dans mon imaginaire. Parfois, on a des intuitions en recherche de ce qu'on veut valider. Y a aussi des endroits où c'est intéressant d'aller piocher. Par exemple, les images des hommes chefs dans les années 80, la médiatisation des chefs au masculin dans les années 80, c'est extrêmement intéressant. Parce que y a une persistance des images dans nos inconscients quand même. Et même si Instagram et les réseaux sociaux sont censés être vecteurs de modernité, on voit bien qu'on rejoue certains archétypes d'une autre façon.
Tu veux dire qu'on continue à véhiculer les clichés
Regarde les succès des hommes un peu à moitié à poil en train de cuisiner. Ah, je vous vois toutes rigoler. Ça joue quand même sur ces codes-là. Qu'est-ce que ça explore? Alors après, le fait que les hommes chefs soient plus suivis que les femmes chefs aussi.
Oh ouais. Oui, ça, et puis l'éternelle pionnière, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Manon Fleury, qu'on présente à chaque fois comme la nouvelle chef, j'ai l'impression...
Alors Manon, pour moi, elle évoque un tout petit peu autre chose, et elle évoque les problématiques d'assignation des rôles. C'est-à-dire que dans les années 70-80, les femmes... Alors ça, c'est l'effet Paul Bocuse. Il a déclaré « Les femmes ne sont bonnes qu'à faire de la cuisine de tradition ». La nouvelle cuisine, c'était l'innovation. Mais en fait, il y avait quand même pas mal de femmes dans les cuisines. Zut! Alors qu'est-ce qu'on fait pour dire que nous, on fait autrement? On dit qu'elles font autre chose. Donc nous, on fait l'innovation. Elles font de la tradition. Donc c'est le bistrot, d'où la phrase « les mères » qui reviennent. Dans les années 30, dans les années 70, c'est les mêmes mots qu'on voit apparaître, ou alors les nouvelles mères aussi, on le voit, pour marquer le renouveau. Mais on est sur le même stéréotype. Manon, pour moi, elle illustre une autre stéréotypisation dont je suis, à laquelle j'ai participé, c'est la chef engagée, la chef durable, en fait. quelque part, c'est une autre assignation. On assigne encore aux femmes à faire mieux que les hommes. Il y a plein d'hommes chefs qui ne vont pas se sentir obligés de faire ça. Qu'il y ait du thon, qu'il y ait des choses pas durables, ils s'en fichent. Par contre, les femmes, elles font bien, elles font mieux, elles sauvent la planète. Mmh. Mais c'est la même chose qu'à la maison, quand c'est les femmes qui s'occupent du care et de découper les lingettes, au lieu d'aller acheter des lingettes jetables, de découper de la polaire pour faire des lingettes durables. Moi, j'ai fait ça, hein, donc je vous garantis, ça dure 20 ans. Mais malgré nous et malgré elles, hein, je dirais, on n'en est pas responsable, mais dès qu'on prend du recul sur ce phénomène, on se rend bien compte qu'on a peut-être créé, malgré nous, une autre assignation aux femmes chefs, qui est finalement de surperformer par rapport à ce que font leurs petits camarades au masculin. Non ?
Et cette volonté de faire une thèse, est-ce que du coup, j'ai l'impression que ce que j'entends, c'est quand même une lassitude aussi du phénomène médiatique et des médias de manière générale ?
Alors, ça serait malvenu, vu que c'est ma source essentielle de revenus. Mais il faut savoir que l'histoire des sciences de l'information et de la communication, qui est la discipline dans laquelle je m'inscris à l'université, a toujours marché de pair avec les médias. Un des pères de la discipline, c'est Robert Escarpit, qui était quand même lui-même journaliste. Et on a régulièrement des anciens journalistes qui interviennent. Et je trouve qu'il est plutôt sain et démocratique que les médias s'interrogent eux-mêmes sur leur fonctionnement. Au contraire, moi, je pense que ça a une influence sur mes pratiques journalistiques. Je ne réfléchis plus à mes mots de tout à fait de la même façon. Et je trouve très intéressant de discuter avec des chercheurs en infocom, parce qu'il y a des problématiques qu'ils ne connaissent pas et que je peux leur expliquer. On était au congrès de la SFIC, c'est la Société française en sciences de l'infocom, et il y a eu une conférence super intéressante sur la communication culturelle. Et il y a un jeune chercheur qui expliquait la notion de citation perroquet, c'est-à-dire qu'une citation qu'il avait repérée, qui se promenait d'articles en site internet, en plaquette officielle, voyez-le, ce que nous on appellerait le copier-coller, quoi. Mais lui, c'est joli cette expression citation perroquet de répétition. Et je lui dis, ben oui, mais en fait, est-ce que tu as réussi à identifier le numéro 1 ? Est-ce que c'est le journaliste qui a été recopié ? Ou est-ce que c'est la source ? Ou est-ce que ce ne serait pas le même journaliste qui écrit le dossier de presse ? Il me dit, mais des journalistes qui écrivent des dossiers de presse ? Je lui dis, ah, ça peut arriver. Et ça permet d'avoir un miroir réflexif sur nos pratiques et de nous enrichir. Donc pour moi, ce n'est pas contre, ça fait partie de l'ensemble du système médiatique.
Mais donc, tu vas rester journaliste au final ?
Écoutez, a priori, il faut bien que je vienne ma vie, parce que la recherche, hein, la recherche, c'est du temps, de l'énergie, mais c'est pas une source de revenus. Et puis moi, c'est ce que je sais faire, c'est avant tout raconter des histoires.
Ouais.
C'est juste une autre façon et une autre temporalité pour aller explorer ces histoires-là, la recherche, et puis porter la chose autrement.
Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se dit un peu journaliste et critique gastronomique avec les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut, comme ça, est-ce qu'on a une légitimité à le faire en ouvrant un compte Instagram ?
La question de la légitimité, on se la pose peu. On se la pose peu, sauf quand il y a des problèmes. Pourquoi est-ce que l'opinion de telle personne vous importe plus que telle autre ? C'est le poids que vous lui apportez. Est-ce que le poids des journalistes, en général, est lié à l'audience de leurs médias ? Donc, c'est la même chose pour les influenceurs. Maintenant, faire un commentaire, c'est pas parce que vous faites un commentaire juste et pertinent qu'on a envie qu'il soit diffusé, parce qu'il n'est pas forcément à l'avantage du restaurateur. Moi, la seule question que je pose toujours, c'est pour qui on travaille ? Qui vous rémunère ? C'est une vraie question. Moi, c'est un journal qui me paye, des abonnés, des lecteurs. Donc je paye mes notes et je suis au service de mes lecteurs. Mon métier, c'est de dire aux gens comment dépenser ou dépenser leur argent. Indirectement, il y a un bénéfice social pour le restaurateur, un bénéfice de mécanisme de reconnaissance qui est celui de la critique gastronomique, d'être adoubé, de dire je suis reconnu, j'ai été choisi parmi X restaurants, je fais partie des élus. Ça marche pour tout critique, hein, pas moi personnellement. Il y a cet effet sélectif. Mais en fait, ça veut dire que vous allez vous adresser à une communauté particulière de personnes. Moi, j'ai une vision très pragmatique. Il faut enlever justement ce spectre de l'ego sur « je suis important parce que je parle de vous » ou « mon restaurant est bon parce qu'on parle de moi ». Ça, je choisis délibérément de le mettre de côté quand on veut analyser qui est quoi sur ce marché-là. La question, c'est est-ce que le restaurant est plein ? Est-ce que mes lecteurs sont contents des recommandations que je fais ? Parfois, oui, je vais pouvoir expliquer quelque chose dans détail d'un restaurant qui va être un peu le point de vue d'un restaurateur. Quand il y a un élément intéressant à faire valoir pour avoir une culture alimentaire, voir les choses autrement. Bien sûr, ça peut se faire. Mais le prisme principal, c'est d'être dans les baskets le plus possible de nos lecteurs. Donc ça va être la question pour la légitimité des influenceurs. Est-ce qu'ils vont être au service de leur communauté ou est-ce que... Et ça pose tous les problèmes de est-ce qu'on est payé par les restaurateurs, qui parle quand il parle.
T'as un travail fascinant parce que tu dois chroniquer dans Télérama Sortir au moins 3 restaurants par semaine. Ça veut dire que tu manges combien de fois au restaurant dans la semaine pour faire ça?
Alors en général, 3 à 5 fois.
Ok.
En moyenne.
Comment tu les choisis?
Parfois plus.
Il y a 18 000 restaurants à Paris. Comment tu choisis les restaurants que tu vas chroniquer?
Alors déjà, j'en ai fait un petit paquet, donc ça en exclut déjà quelques-uns. Après, je dirais ça, c'est les secrets de fabrication de la méthode, mais c'est une histoire de cocktail chaque semaine aussi. Je ne vais pas faire que des restos du 20e la même semaine. Déjà, il y a la base du guide gastronomique, c'est la géographie. Ça, le Michelin dit toujours, vaut le détour, vaut le voyage, etc. Pour Paris, c'est pareil. Vous n'évaluez pas de la même façon le petit bistrot en bas de chez vous que le gastro pour lequel vous avez traversé Paris. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Donc ça, c'est fondamental. C'est être sur le chemin des gens. Donc, essayer d'aller un coup dans le 20e, un coup au fin fond du 16e. Alors parfois, ça permet d'avoir une histoire à raconter. J'ai plutôt dans le 16e si j'ai besoin d'aller voir un avocat. Mais voilà, nos lecteurs, ils peuvent être partout dans Paris. Après, le problème de... Par exemple, moi, j'aimerais bien aller plus souvent en grande banlieue. Enfin, c'est que quand même, c'est très grand. Et pour les déplacements, ça peut être assez complexe, quoi. Et après, c'est une histoire de mélange. Il y a les différents types de cuisine, différents types de prix. Moi, la rubrique qui est particulièrement chère à mon cœur, c'est le midi moins cher. C'était la rubrique. Alors, avant, c'était moins de 15 euros. Maintenant, on est passé plutôt à 16-17. Mais on essaye qui est pour tous les goûts, tous les prix, toutes les bourses. Majoritairement, on ne fait pas de resto extrêmement cher. L'augmentation des additions ces 6 derniers mois, ça s'est douloureusement fait sentir sur la rubrique parce qu'effectivement, ça se voit. Donc...
Est-ce que tu vas faire attention à tous les dossiers de presse que tu vas recevoir ?
Alors, c'est pas parce qu'on a une attachée de presse qu'on va passer dans ma rubrique, mais c'est pas parce qu'on en a une qu'on ne va pas y passer. Ouais. Avant, je les lisais beaucoup. Maintenant, je note juste le nom, l'adresse, et puis j'essaye de pas trop me faire influencer avant d'y aller. Parce que je suis plus dans la peau du lecteur, comme ça, finalement. J'ai un horizon d'attente un peu moins... élevé peut-être aussi. Ça, c'est une notion qui vient de l'analyse littéraire. La notion d'horizon d'attente, c'est quand vous allez dans un resto qui est hyper connu, vous dites « ça va être génial ». Donc, vous avez plus de chances d'être déçu finalement. Alors que quand c'est un truc dont vous attendez rien, vous aurez plutôt une bonne surprise. Donc, il faut essayer d'être au même niveau d'attente que ses lecteurs. Et normalement, ils n'ont pas reçu 12 dossiers de presse. Par contre, ce qui est nouveau depuis vraiment les 2 dernières années, c'est l'effet Instagram dans les restaurants, où parfois, on a vraiment une communication très, 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 très intense sur les réseaux sociaux. Je pique parfois le téléphone de mes copains et de mes enfants pour voir ce qu'ils ont en sponsor et tout. Ça, j'aime bien aller regarder. Parce que ça surexpose un restaurant. Et dans ces cas-là, c'est quand même... ça peut être bien ou plus dangereux pour le restaurant.
Ouais. Parce que je trouve que ce qui te différencie quand même, c'est que tu as une capacité on a une diversité de restaurants chroniqués qu'on trouve un peu nulle part ailleurs. Tu vois, il y a un style fooding, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un style Michelin, mais sur les étoilés en tout cas. Toi, tu as réussi à sortir des pépites dont on n'a jamais entendu parler sur des restaurants ultra divers. Quand même, comment tu fais pour choisir d'aller... dans ce petit japonais, j'en sais rien, qui paye vraiment pas de mine versus...
Alors après, moi j'ai plein d'amis qui sont pas dans la bouffe et qui recommandent des choses. On a d'autres gens, d'autres salariés du journal qui proposent. Ce côté éclectique, c'est parce que les lecteurs le sont. J'estime que j'ai pas à leur imposer mes goûts, sinon je vous ferai que des restos de tartines de beurre, ça serait quand même très ennuyeux. Si ça se trouve, vous avez pas à savoir mes goûts, on les devine quand même, mais j'essaye qu'il y ait quand même des restos de viande et des restos végétariens. Faut pas imposer là-dessus. Il faut qu'on leur laisse le choix dans ce panel-là. Il y a déjà une sélection. Donc j'ai pas fait les 18 000 restaurants parisiens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de burger. Tiens, faudrait typiquement. Des fois, on se dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de kebab ou de burger ou des envies du moment. Donc c'est.
Donc tu dirais que t'as pas de critères en tout cas pour identifier un restaurant.
J'ai un point commun avec Paul Bocuse. Il faut que ce soit bon.
Est-ce que l'écologie joue un rôle?
Alors. Là encore, en quelle mesure j'ai le droit d'imposer mes critères à moi au restaurant? Alors, ça dépend où tu l'as fait démarrer l'écologie. Pour moi, le minimum syndical, c'est d'avoir un plat végétarien, par exemple. Là, on est les seuls, quand j'ai commencé il y a 8 ans, j'ai dit, on va indiquer systématiquement les restos qui sont végétarien friendly, c'est-à-dire des restos où on ne va pas juste vous faire une assiette de légumes. Vous avez un plat végétarien à la carte. Végétarien welcome, quoi. Et ils étaient un peu étonnés, mais en fait, c'est resté. Ça s'est développé. Quand même, moi, ce que je vois, c'est que ça s'est développé par rapport à il y a 8 ans, et ça m'a fait très, très, très plaisir. Pour moi, je cherche plutôt que le resto soit inclusif que parfait, mais inclusif au sens où il peut facilement s'adapter à plusieurs publics, en fait. Et ça c'est valorisé, en fait. Mais j'enlève pas de points non plus, dans ma notation, quand il n'y a qu'un certain type de restauration. J'ai pas le droit de faire ça, j'ai envie de dire.
Non, mais toi qui t'y connais si bien en restauration, t'as une culture quand même, en alimentation, t'as une culture quand même hyper forte. J'imagine que peux pas t'empêcher, non.
Tiens, on va parler d'un sujet récent qui est monté et qui est intéressant, c'est l'anguille.
Ouais.
Voilà, ça pour moi, c'est un super sujet. Donc l'anguille, ça faisait un petit moment qu'on disait qu'il y avait des problèmes. Hein. Éthique Océan l'avait déjà un peu dit dans son rapport précédent. Et là, ils ont vraiment dit l'anguille, c'est pas possible. En tout cas, l'anguille en Europe, hein, ouais. si j'ai bien en tête.
Nous, c'est un critère d'exclusion du label Écotable.
Voilà, écoute, j'ai pas révisé avant de venir, mais ouf, c'était bien ça. Je sais pas depuis combien de temps ça allait pour vous, l'exclusion.
Depuis le début,
très bien. C'est quelque chose qui est très peu connu des chefs, parce que beaucoup de chefs aiment bien utiliser l'anguille fumée.
C'est à la mode, ouais.
C'est à la mode, c'est un produit relativement facile à travailler, et qu'on trouve de bonne qualité. En fait, il y a eu plein de gens qui ont vendu de la bonne, et surtout on leur dit « mais c'est de l'élevage ». Ben en fait, oui, elles sont élevées, mais en fait, elles sont prélevées bébés et on ne sait toujours pas comment elles se reproduisent, les anguilles. Ah ben c'est absolument fascinant. Donc dans ma prochaine vie, je serai scientifique pour étudier la reproduction des...
J'ai cru que tu allais dire dans ta prochaine vie, je serai une anguille.
écoute, peut-être parce qu'en Sicile, dans les îles éoliennes, elles servent... Il y a toujours des anguilles dans les réservoirs d'eau pour savoir si elles sont potables. Donc parfois, tu as des maisons où ils ont la même anguille qu'il y a 20 ou 30 ans dans la maison. Ouais, j'adore les histoires d'anguilles, c'est assez fascinant comme animal. Bref, moi, il y a plein de restaurateurs auxquels j'ai dit, ben, tu dis que tu es anguille et tout, l'anguille, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais je ne savais pas et tout. Il y a un vrai manque de diffusion d'informations. Et puis, il y a certains qui réagissent en disant, mais je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire là, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bah, le tofu, il y en a un bon producteur pas loin. Typiquement, moi, c'est un produit que j'aime bien quand il est bon, le tofu. J'ai déjà écrit plusieurs fois des choses. J'ai souvent un peu de courrier des lecteurs hein, là-dessus. Mais on peut trouver un tofu de bonne qualité comme on peut trouver d'autres produits de bonne qualité. Donc, la nature de l'engagement écologique, il est... tant que le chef n'arrive pas en revendiquant des choses qu'il n'applique pas, je ne suis pas fondée à lui faire la leçon. Je l'ai peut-être fait plus facilement au début de mes critiques, je le fais beaucoup moins. Parce que si vous arrivez en disant « je suis un champion de l'écologie, chez moi tout est parfait », c'est sûr que si j'arrive, il y a de l'anguille, là je ne vais peut-être pas vous rater. Mais si vous avez un profil plus discret là-dessus, ça peut se discuter.
Oui, mais il y a des critères qui peut-être pour toi sont quand même devenus aujourd'hui éliminatoires. Je pense à un restaurant qui ne respecte pas les saisons, tu vois.
Alors, sur les saisons, on est un peu dans la merde quand même. Parce que ce fameux « ça respecte pas les saisons », du moment qu'on a un jardin, on se rend vite compte que parfois, j'ai des choses que, théoriquement, je pensais ne jamais pouvoir se croiser dans l'assiette, et qui, avec le changement climatique, se mélangent beaucoup plus qu'avant. Et j'aurais pu tiquer à certains moments, mais il y a des fois, je peux pas être sûre, avant d'aller vérifier les cartons, que tel truc vient de tel endroit ou tel truc de tel endroit... Alors oui, il faut que ce soit vraiment évident pour que je tilte, évidemment.
Tu vois, un restaurant...
Tiens, regarde, les problèmes des cuisines du monde, ça c'est un sujet que je rêvais de faire et que j'ai pas encore eu le temps d'écrire. Comment réagissent les gens dans un restaurant grec quand il n'y a pas de moussaka l'hiver? Parce que l'aubergine n'est pas un légume d'hiver. Et pas un légume d'hiver en France. Alors que, par exemple, en Inde, on en a toute l'année. Hein. C'est encore mieux un exemple de restaurant indien où il y a des préparations aux aubergines, vu que pour eux, sous ces latitudes-là, c'est quelque chose d'ordinaire. Comment réagissent les gens? Comment réagissent les gens qui viennent s'y attabler? Alors voilà, pour la tomate mozza, on a gagné, mais sur une toute petite quantité de restaurants, il y a plein de gens qui n'en ont rien à faire de manger des mauvaises tomates mozza l'hiver, quoi. J'ai pas à juger là-dessus. C'est ça la difficulté, c'est que longtemps on met les critiques dans des positions de juge, alors qu'on est des passeurs, on retransmet quelque chose. On retransmet une réalité, on peut sensibiliser, mais le juge du restaurateur, c'est ça se vend ou ça se vend pas.
Ok, donc tu vas vraiment te concentrer sur le goût avant tout.
Je dirais là, oui, on revient toujours à la base. Il faut déjà que ce soit cuit correctement et assaisonné correctement. Ça a l'air bête, mais dit comme ça, c'est pas si fréquent. Et alors après le service, ça change beaucoup. Puis il y a une intention générale qui va animer les choses. On n'est pas, c'est pas une histoire de donner une note à la fin. C'est retranscrire un moment. Ou trouver l'envie, transmettre une expérience et se dire tel resto il est bien pour tel type de personne ou tel moment. D'ailleurs, tu le sais, quand tu me demandes où c'est que je peux aller pour tel truc, moi je demande aux gens, tu veux un resto pour quelles circonstances, dans quel quartier, à quel budget? Parce que ce qui est bien pour moi est pas bien pour toi. C'est très personnalisé finalement pour moi. C'est pour ça que je tiens autant à ce que ce soit éclectique. Pour que la plupart des lecteurs arrivent à trouver quelque chose qui leur convienne.
Ouais. Tu nous as parlé du service en salle. C'est souvent quelque chose qu'on oublie dans l'importance de son expérience au restaurant. Et en même temps, on en a entendu quand même de plus en plus parler avec la question des violences en cuisine. On peut se ressentir parfois dans un restaurant une ambiance nauséabonde. Mmh. Comment tu intègres ça, toi, dans ton travail de critique?
Alors, on a toujours... régulièrement, il y a des restos dont on choisit de ne pas parler. Okay. Ça arrive régulièrement.
Tu fais pas de critiques négatives? Si, ça t'est déjà arrivé.
Si, ça m'arrive déjà. Mais parfois, dans le doute, abstiens-toi. Il faut pas attaquer les gens à la légère. Sur le service, quelque chose d'important, c'est qu'un repas moyen avec un excellent service, ça va bien aller. Un repas excellent avec un service atroce, ça passe pas.
Ouais.
Et ça dit beaucoup du soin qu'il faut apporter. Et souvent, un problème du service signale quelque chose qui ne va pas dans la cuisine. Soit il y a, ou alors parfois, rarement, ça peut arriver, il y a une personne toxique dans le service, mais on l'isole assez vite en regardant les autres tables, en regardant qui est la personne, on arrive assez vite à le voir. Soit il y a un vrai malaise dans la cuisine et ça se balance sur la salle. Après, ça veut dire que quand on se met au restaurant, on essaye de se mettre à un endroit où on voit le pass et le service. On ne se met pas n'importe où dans une salle de resto pour regarder le plus de choses possibles qui se passent.
Et sur la question de des places des femmes, tu vois, le guide Michelin expliquait encore récemment dans un podcast par la voix de son directeur que s'il y avait peu de femmes étoilées, c'est parce qu'elles étaient peu présentes dans les restaurants. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça?
Comme tu l'as souligné, c'est toi qui l'as dit au départ, il a beau s'en défendre. Le restaurant Michelin est une vision du monde de la gastronomie. Mais comme moi, tout ce que je viens de te dire, c'est une vision du monde de la gastronomie. Le fooding en a une, le critique du point en a une autre. On veut toujours passer pour le juge impartial qui sait tout du monde de la gastronomie, mais c'est un domaine culturel avec une forte dominante marketing, avec des cibles et des goûts et des attentes différentes. Et c'est ça qui est merveilleux. Le vrai sujet, c'est que la gastronomie intéresse pas tant que ça les gens, en fait. Donc, est-ce que la multiplication des acteurs ces dernières années, est-ce qu'elle est possible sur le long terme, la survie de ces acteurs-là? Parce qu'on est tous en concurrence les uns les autres pour gagner la plus grosse part de marché d'audience, finalement, si je résume. Dans les années 70-80, le Goemio était bien plus puissant que le Michelin. Ça, c'est quelque chose qui a été oublié, mais il suffit de parler avec des chefs d'une autre génération qui vous racontent comment ça se passait. Que le Goemio, c'était un peu le fooding de l'époque. Il défrichait bien avant et le Michelin venait bien après, plus tard, avait des goûts beaucoup plus traditionnels. Donc, il y a un peu une réécriture de l'histoire quand même là. Et le Michelin reste la marque. Ils ont la marque. C'est la seule chose qui est connue du très grand public. C'est la seule chose qui est connue de tout le monde. Et c'est ça qui fait que ça l'emporte et ça s'exporte à l'international. Mais c'est quand même un certain type de vision de la cuisine française. Et c'est à eux de s'en justifier, pas moi.
Mais toi, est-ce que tu vas faire attention du coup à une certaine parité dans un restaurant ?
Alors, c'est toujours indicateur de quelque chose. Une cuisine où il n'y a que des hommes ou une cuisine où il n'y a que des femmes, en effet. Mais c'est comme dans une entreprise. C'est une entreprise, un restaurant. Donc, c'est un indicateur de l'ambiance. C'est mesuré dans en RSE, le nombre de collaborateurs et de collaboratrices. C'est la même chose pour moi. Ça a forcément un impact.
Et tu dirais qu'aujourd'hui, on continue du coup à invisibiliser les femmes sur le sujet de la gastronomie ?
C'est vrai que je n'ai pas du tout répondu à la question, non. En fait. Hein. mais ça, c'est ma spécialité.
Tu as fait ta langue de bois politique.
Non, mais je peux y revenir. Dans le monde du Michelin, qui est un monde où quand même domine la figure du grand chef, les femmes ont moins souvent... Alors, ça s'attaque à la structure même des brigades de restauration. Ce qu'on voit, c'est que très vite, dans des grands restaurants, on ne prend pas de femmes ou on en prend moins. Ou elles vont dans des restaurants de plus petite taille, en disant au moins j'aurai moins de problèmes. Ou elles vont dans des restaurants où il y a déjà des femmes chefs. Vous pouvez demander à plein de femmes chefs, elles vont vous dire qu'elles reçoivent majoritairement des propositions, des demandes d'emploi de femmes. Ça, c'est très révélateur du phénomène quand même. Hein. Et puis quand on va se retrouver seul, isolé dans une brigade d'hommes, on n'est pas forcément à l'aise. Alors qu'une brigade où il y a 50-50, ça va aller mieux. Et il y a une reproduction du mécanisme de sélection. C'est comme les entreprises du CAC 40. Il y en a dans les conseils d'admin, mais il y en a peu qui montent. C'est exactement la même problématique. On est au fur et à mesure qu'on est plus en plus proche de l'âge d'avoir des enfants, on est éliminé du métier, ou on prend d'autres options, ou on fait d'autres barrières. Donc ça aboutit à le mécanisme de la restauration est proche de celui de plein d'autres entreprises, finalement. Et quand il dit « il n'y a pas de femmes dans les cuisines », si, il y en a au début, il y en a de moins en moins après. Donc c'est comme si je travaillais dans un conseil d'administration et je dirais « il n'y a pas de femmes dans les entreprises ». Si, il y en a, mais pas dans les postes clés, bizarrement. Toujours la même... C'est exactement le même rapport. Mais qu'est-ce qui l'intéresse ? Juste les grands restaurants ou les grands groupes cotés au CAC 40, ça, on peut dire que ça... On peut faire une analogie, ou l'ensemble du secteur des entreprises en France, où là, on se rend compte que les femmes sont majoritaires, c'était ça, je crois, au dernier rapport. Bref, qu'est-ce qu'on représente ? L'industrie ou une partie de l'industrie ? Et c'est là qu'on fait l'erreur. On pense que le Michelin, c'est l'alpha et l'oméga de cette industrie-là. Non, d'une partie de cette industrie-là seulement.
Est-ce que pour toi, ils ont un rôle à jouer en promouvant une autre gastronomie que celle qui promeut aujourd'hui ?
Je ne peux pas répondre à leur place. Mais je ne peux pas répondre à leur place parce que là, on est sur des problématiques de médiatisation. Et qu'en France, on n'a pas de ministère de l'alimentation. On n'a pas d'incarnation publique officielle de ce qui se mange. On a un grand vide. Moi, ce qui m'a marqué à la dernière cérémonie du Michelin, c'est qu'on a quand même eu une allocution du président de la République. Au début de la cérémonie, j'ai dit, mais j'étais extrêmement surprise. C'est une cérémonie d'un groupe privé vend des pneus. Ça reste du brand content, c'est super. On va se déplacer pour aller pour user des pneus, pour aller dans des restaurants. C'est la base de l'histoire. Ça reste quand même une industrie privée. Très bien. Mais pourquoi il y avait un message du ministre, du président ? C'était quand même très étonnant. Mais parce que c'est la seule occasion de médiatisation de la gastronomie en France, la cérémonie du Michelin. J'ai mis un petit moment à comprendre, mais à quel autre moment dans l'année on va parler au JT de 20h des chefs ? À quel moment ? Vous avez des... Tu te souviens de quelque chose, Fanny, toi ?
Non, t'as raison. D'ailleurs, le fooding n'a pas réussi à ça, contrairement au Michelin, même s'ils font une cérémonie. C'est que... Mais il n'y a que le Michelin qui a réussi à craquer ça.
Oui, et en déplaçant l'horaire de sa cérémonie et en la médiatisant, ouais. En la mettant. Et c'est très intéressant parce que malgré eux, il se retrouve titulaire, il se retrouve à endosser un rôle qui n'est pas le leur au départ. Ils l'ont pas demandé, mais c'est l'occasion numéro un de médiatisation du culinaire en France. Ça répond encore pas à ta question.
Non, mais ma question suivante, ce sera, est-ce que tu vois le secteur, en tout cas, évoluer sur ces sujets-là, que ça soit d'ailleurs la question écologique qui m'intéresse évidemment, mais aussi la question de la place de la femme dans ce milieu, parce que en effet, on a l'impression qu'il n'y a pas de femmes, parce que quand tu regardes la liste des étoilées, bah, de fait, il y en a toujours très peu.
Et on confond encore donc l'ensemble du secteur avec la médiatisation du haut du panier du secteur. Ouais. Voilà, c'est une histoire de représentation. Mmh. Mais parce qu'on s'intéresse, on voit la gastronomie, c'est le monde enchanté de la cuisine. Donc c'est confondre les mortels et les dieux de l'Olympe. Il y a toute une mythologie qui se crée là-dessus. L'ensemble du secteur manque de bras, donc l'ensemble du secteur est forcé d'évoluer.
Mais est-ce que tu le vois, t'as l'impression qu'il y a quand même un déclic sur le sujet après les MeToo de la restauration, après...
Je dirais que c'est des choses qui sont lentes à évoluer, qui se font progressivement, qui vont aussi avec d'autres pratiques auprès des jeunes qui rentrent dans le secteur quand ouais. même. On est quand même dans un secteur qui n'est pas étanche aux évolutions de la société, Dieu merci. Et une des premières qui m'a parlé de ça, c'est la chef Elena Arzac. Donc Elena Arzac, elle a 3 étoiles. C'est la fille de Juan Mari Arzac, elle est sur le Pays Basque. Elle est au Pays Basque. Et je l'ai interrogée pour un guide. Et j'étais tombée sur une photo de sa grand-mère en cuisine dans les années 70 avec que des chefs à côté d'elle. Une photo qui n'existe pas en France. Je croyais qu'il n'existait pas. En fait, j'en ai trouvé une, mais elle n'était pas étoilée. Mais ça, c'est une autre histoire, je vous raconterai une autre fois. Et cette photo m'avait vraiment étonnée. Et vu que c'est... et quand j'étais dans les cuisines d'Arzac, il y avait autant de femmes que d'hommes. Hein, le jour où j'y étais, c'était il y a déjà pas mal d'années. Et je lui dis, qu'est-ce qui a fait cette différence-là? Qu'est-ce que vous avez vu comme changement? Elle me dit, nous, en Espagne, ce qui a tout changé, c'est quand on a eu la loi sur les congés paternité, équivalent au congé maternité. Alors là, elle me dit, donc... elle m'a donné de l'espoir, Elena Arzac, en me disant nous, ça a tout changé dans les cuisines et dans l'organisation sociale. Donc, quand vous aurez ça, ça sera, le secteur sera forcé d'évoluer grâce à ça. Parce qu'elle m'a dit moi, je l'ai vécu et j'ai vu la différence. Et puis surtout, j'ai vu qu'au début, la question sur le patriarcat dans les cuisines, les grands chefs et tout, elle avait du mal à comprendre. Et pourtant, elle connaît très bien la cuisine traditionnelle française, mais elle n'avait pas mesuré la différence, en fait, qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes références.
On te voit poser souvent, je ne sais pas si on peut dire souvent, mais on te voit en tout cas faire des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Par moments, on sait que tu es énervée ce jour-là. Est-ce que tu dirais que tu es militante?
Alors, c'est un mot dont je me méfie parce que avoir envie de faire bouger les choses et essayer d'avoir une certaine transparence, ce n'est pas du militantisme pour moi. Ça reste une obligation qu'on a de montrer comment on fabrique les informations. Ou alors on me dit que je suis une personne engagée, je dis non, je suis surtout dégagée, plutôt des conventions ou des pressions. Il faut vraiment réussir à se poser la question de où je parle et à qui je le transmets. Et une fois que vous avez répondu à ces questions-là, vous allez peut-être avoir tendance à plus vouloir dire les choses ou les taire.
On arrive à la conclusion de ce podcast. Je vais te poser encore quelques questions, une question plus politique. Si tu avais une mesure politique à souffler au gouvernement pour faire bouger le secteur de la restauration sur les questions environnementales, ce serait quoi? Ou l'alimentation au sens large?
Relocaliser les cantines. Les rendre, au lieu d'avoir des cuisines centrales, ouais. Avoir des cuisines que ce soit pour les hôpitaux, pour les crèches, les écoles. Arrêter les cuisines centrales et avoir des cuisines locales. Ça a un autre nom que je suis en train de te chercher. C'est pas recentraliser les cuisines, c'est...
Relocaliser, ça me paraît bien.
Hein, c'est relocaliser. Pour moi, ça serait une mesure qui aurait en fait énormément d'impact hein, parce qu'elle va toucher de l'emploi, elle va toucher ce que vont manger les gens, ça va avoir aussi un impact sur le transport. Ça a d'énormes impacts en fait et ça touche vraiment tout le monde de 0 à 100 ans.
Est-ce que pour toi ça passe aussi par revaloriser le travail de cuisinier dans ces cantines parce qu'on a beaucoup valorisé le travail de cuisinier au restaurant?
Il y a l'autre invisibilisation du métier dans les cuisines, c'est l'invisibilisation des cuisiniers de collectivité, en fait. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'il y a l'image du chef et l'autre image, c'est la cantinière. C'est un mot qu'on m'a souvent opposé. Et chef, ce n'est pas un métier, hein, c'est une fonction. Cuisinier, c'est un métier. Oui, mais revaloriser l'acte de cuisinier, c'est la chose qui, moi, va me tenir le plus à cœur. Parce que quand j'aime cuisiner, c'est ce geste-là. On ne le paye pas à sa juste valeur, que ce soit la cuisine quotidienne des femmes, puisqu'on est quand même 70% à faire le repas tous les jours. C'est une charge qui est moins partagée. Tout est lié. Tout est lié. Et revaloriser l'acte de cuisinier, ça permet de revaloriser énormément de choses derrière, en fait.
Et une mesure pour l'égalité homme-femme, ou en tout cas la visibilisation des femmes dans les cuisines.
Alors, la mesure d'égalité, c'est effectivement le congé.
Le congé, ouais.
Ouais, dont j'ai déjà parlé juste avant. Ça, c'est une mesure centrale, indispensable, puisqu'on sait que tout se joue et que ça a un impact sur une génération qui est là, en fait, dans les cuisines. Donc ça, et puis, ça change l'ensemble de la société. Ça ne va pas évoluer à part les cuisines, ça évolue avec.
C'est quoi tes projets futurs ?
Réussir à écrire 3 lignes pour ma thèse, globalement. Et puis, continuer à cuisiner tous les soirs.
T'y arrives ?
C'est très important. Je peux pas. J'aime vraiment. C'est important pour moi que les actes soient en accord avec les mots. Faut pas avoir la communication qui marche devant et puis faire quelque chose de complètement opposé. La cohérence, c'est la chose la plus utile. Enfin, ça me semble indispensable à préserver. Et si je cuisine pas tous les soirs, ça me manque. Ça me rend malheureuse et puis je ne suis pas à ma place dans l'ordre social. Je suis très fière et très heureuse de cuisiner tous les soirs parce que j'aime ça.
Tu penses qu'on peut changer le monde avec l'assiette ?
Oui, c'est normal, elle est ronde comme le monde.
C'est quoi ta plus grande fierté ?
Que mon fils de 18 ans cuisine.
Est-ce qu'il cuisine ?
Oui, ça m'a étonnée. Il n'est pas parti de la maison il y a très longtemps et il ne cuisinait pas avant. Il dit « Normal, tu cuisines trop bien ». Bah, il sait faire un nombre de trucs incroyables.
Parce qu'il t'a vu faire.
Oui, mais ça, je ne pouvais pas mesurer la force de l'exemple. Ouais. Et il invite ses copains.
Génial.
Et ça m'a rendue super fière, parce que je n'avais pas mesuré.
Qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire ?
Quelle drôle de question. puisque je n'ai pas ce pouvoir-là, je ne me pose pas la question. Rien, puisque j'ai toujours fait avec.
Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ?
La diversité des rencontres, des gens de toutes les classes, tous les horizons, toutes les origines. Ça, c'est vraiment merveilleux, la possibilité de créer du lien tout le temps.
Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier ?
Le poids de la représentation.
C'est-à-dire ?
Un restaurant, c'est un lieu social, c'est un lieu de convention sociale, d'apparence, où finalement le décorum va l'emporter sur la cuisine. C'est pour ça qu'au début j'ai répondu, le restaurant, c'est pas toujours mon lieu préféré. C'est un débat, une petite discussion que j'ai eue avec Michel Brassia, il y a pas longtemps là-dessus. Hein, typiquement que lui, il était arrivé dans ce métier-là en enlevant ces codes-là. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de créer des codes non-stop sur la cuisine, alors que l'essentiel, c'est ce qu'on va partager. Donc le côté épicurien au départ, il ne faut jamais oublier qu'Épicure disait que c'est partager du pain et du fromage de chèvre. On n'a pas forcément besoin de plus. J'aime bien ce côté l'essentiel. Il peut être très simple dans l'assiette, mais ça va être le moment que vous partagez.
Comment on fait pour préserver sa santé quand on va autant au restaurant que toi ?
On marche beaucoup. On goûte, puisqu'on mange de tout, finalement. Et puis, ça a un impact sur notre santé, c'est certain.
Est-ce que tu déplores que le fait que les restaurants réfléchissent peut-être peu à l'aspect santé dans l'assiette ?
C'est une question qu'on peut se poser quand on a la chance d'aller très souvent au restaurant. Parce que la plupart des gens, ils vont pour se faire plaisir. Et ils vont cuisiner des choses qu'ils ne cuisinent pas tous les jours. Donc, j'estime que j'ai un prisme déformé.
Bonne réponse. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture, de film ou autre, de chronique à suivre pour tous nos auditeurs, pardon.
Uniquement dans la cuisine ?
Non.
Alors moi, c'est un livre que j'ai beaucoup offert. C'est qu'il est indispensable d'avoir lu Une place à soi. Alors c'est la traduction de de Marie Darrieussecq, de Une chambre à soi, de Virginia Woolf, mais c'est l'ouvrage que j'aurais aimé qu'on me donne à lire quand j'avais 21 ans. Et combien il est précieux et indispensable quand on est une femme d'avoir un espace à soi pour pouvoir créer et d'être indépendante financièrement pour se donner la liberté de faire ce qu'on a à faire. Donc pour moi, c'est une lecture fondatrice que j'aurais aimé avoir plus tôt. Donc ça me semble tellement basique de le dire, mais je ne peux pas faire d'autre choix que celui-là.
Une recette très simple que tu pourrais partager. Ta recette peut-être préférée que tu pourrais partager avec nos auditrices et auditeurs.
Ça va toujours être celle que j'ai fait la veille, en fait, hein, des recettes préférées. Bah, je sais que ce soir, en fait, je vais faire des crêpes de blettes. Donc, les blettes, c'est toujours un légume qu'on n'aime pas forcément
compliqué
follement.
Compliqué à cuisiner, je
compliqué trouve. Compliqué à cuisiner. Alors déjà, il faut séparer le vert des blancs, premier geste. Et commencer à couper les blancs fin avec de l'ail et de l'oignon et les faire revenir pendant ce temps à feu doux. Pendant ce temps, on hache le vert. Et puis après, on réunit les deux et on fait bien cuire les deux à feu doux avec un peu de bouillon. Et une fois qu'on a ça, déjà, c'est fait, ça peut se garder 3 jours au frigo. Donc on peut en rajouter une poignée dans du riz sauté, une poignée dans une soupe. On n'est pas... C'est quand même un goût assez marqué, la blette. On n'est pas forcé de la manger d'un seul coup, d'un seul. Alors à Nice, on fait un dessert avec que j'adore. On fait une tourte de blette sucrée. C'est pas ça que je vais vous faire. Moi, je mélange avec... je prends 2 grosses poignées de mes blettes hachées. Je mélange avec un yaourt, un œuf, un pot de farine. Et alors souvent, je vais mélanger moitié sarrasin, moitié blé ou moitié petite épaule. C'est toujours bien... Moi, c'est quelque chose qui est important dans ma cuisine. C'est toujours d'aller chercher un peu de diversité pour enlever de la pression écologique et puis pour avoir des goûts un peu différents. Puis c'est des réflexes qu'on prend assez facilement comme ça. Et puis on mélange, on rajoute un peu de feta si on en a, mais c'est pas indispensable de mettre du fromage, mais ça peut être pas mal. Des petites graines aussi, c'est bien pour le croustillant. Un petit peu d'huile d'olive dans une poêle, on fait des petites galettes. Et puis voilà.
Avec on peut le faire soupe. Avec tous les légumes, non?
Oui, c'est une base. Là, je sais que cette semaine, c'est parce que j'ai fait des blettes, où on fait un mélange blettes poireaux, mais ça marchait avec tous les légumes, bien sûr. Les petits pois, les fèves, dès que j'ai un reste de légumes, ça finit en blini ou en galette. Mais ça marche bien. Et puis aussi, quand tu as des petits enfants qui veulent manger avec les doigts, ou des grands qui veulent manger affalés sur le canapé, ça marche aussi.
Ton conseil pour avoir une cuisine engagée chez soi? Tu nous as parlé de diversité.
Ouais, j'allais dire, pour moi, c'est ça. C'est que la règle, c'est d'enlever de la pression. Varier son assiette. Pas avoir... si on aime manger des pâtes tous les soirs, bah pourquoi pas. Mais un coup, n'oubliez pas de mettre des pâtes d'épeautre, et puis des pâtes de quinoa, et puis des pâtes de légumineuses, par exemple. Bah, ne serait-ce que ça, c'est un petit début. Et puis oui, varier. Quand j'ai fini mon pot de farine de sarrasin, je ne vais pas racheter la farine de sarrasin, mais je vais racheter de la farine de maïs. Et puis comme ça, je tourne en fait sur pas mal de choses. Si j'ai dit tout à l'heure les lasagnes végétariennes, mon plat préféré, c'est parce qu'on peut les faire avec tout et n'importe quoi. Finalement, c'est juste un principe de base. C'est un plat que beaucoup de gens consomment de façon carnée, alors qu'il est meilleur et encore plus simple à faire en version végétarienne. Et puis tout le monde l'aime. C'est vraiment... C'est le plat super consensuel.
Est-ce que tu essayes que ta lasagne, elle ressemble un peu à de la viande en ajoutant des légumineuses comme des lentilles, etc. ou pas du tout?
Ça va dépendre de la saison et de ce que j'ai dans mon frigo. La dernière fois, j'ai fait champignons potimarron. Et c'est vrai que le champignon a une texture un peu qui se prête bien à la viande. Mais toujours 2 sortes de champignons, par exemple.
Là, ah oui, et, pourquoi ouais.
Mais pareil, parce que ça va jouer sur les textures. Disons que les textures trop lisses dans la cuisine végétarienne, ça va vraiment... On a besoin d'une diversité dans la mâche. Donc avoir des champignons de Paris et, par exemple, des pleurotes qui ont fait un peu griller. La pleurote a une texture de chair qui reste ferme même après une cuisson au four. Et ça va induire une petite surprise dans la mâche.
Un jour, tu ouvriras ton restaurant?
Non, merci.
Merci beaucoup, Estherelle.
Merci beaucoup, Fanny.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.